VOA Afrique, monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 6 juillet 2023. En direct de Washington, Idrissa Sedulia pour commencer les titres. Une quinzaine de civils tués par des djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso et départ massif d'habitants fuyant les incursions des groupes armés. L'Union européenne renforce son aide militaire au Niger face aux groupes djihadistes, notamment dans les zones proches du Mali et du Burkina Faso. 18 millions de doses de vaccins antipaludiques pour 12 pays d'Afrique, annonce l'Organisation mondiale de la santé. Le président américain Joe Biden reçoit le premier ministre suédois à une semaine d'un sommet de l'Alliance Atlantique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Dans l'est du Burkina Faso, une quinzaine de civils ont été tués selon des sources sécuritaires et locales qui évoquent aussi un départ massif d'habitants fuyant les incursions des groupes armés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Des terroristes ont mené une attaque tôt hier matin à Sorga, près de Bougandé, chef-lieu de la province de la Nyanya, qui a coûté la vie à une quinzaine d'habitants, dont des femmes, a déclaré un responsable local. Les assaillants sur des motos ont attaqué le village et ont fait plusieurs blessés qui ont été évacués à Bougandé. Un autre habitant a indiqué que les terroristes ont aussi incendié des maisons et des greniers à vivre avant de disparaître. Les populations de Sorga ont fui vers Bougandé, tout comme celle de Nidangou, un village voisin, par crainte d'une attaque. Au moins 71 hommes, dont 31 soldats et 40 supplétifs civils de l'armée, ont été tués lundi dans 3 attaques de djihadistes présumés, dont les 2 plus meurtrières ont eu lieu dans la province du Centre-Nord, selon l'armée. Samedi, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes, dont Fada Ngourma, chef-lieu de la région de l'Est, pour soutenir les autorités de transition.
L'UE renforcera son appui militaire au Niger pour combattre les groupes djihadistes, notamment dans les zones proches du Mali et du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé hier le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, lors d'une conférence de presse à Niamey. Lionel Gahima fait le point.
Le Niger a déclaré « Monsieur Borrell sera le premier pays africain à bénéficier d'une aide européenne afin de doter ses forces en équipement à caractère létal, principalement des munitions sophistiquées pour hélicoptères de combat. Sur la centaine de millions d'euros d'aide destinée à la sécurité du pays, 5 millions sont destinés à l'achat des munitions de combat et proviendront du fonds de la Facilité européenne pour la paix dont bénéficie déjà l'Ukraine, a-t-il précisé. Le chef de la diplomatie européenne a rappelé l'existence de missions militaires au Niger pour soutenir la formation des effectifs, le maillage territorial, la construction de casernes. Selon M. Borrell, l'UE soutient le Niger pour son agenda de consolidation démocratique, la bonne gouvernance, ainsi que la grande capacité de son armée à faire face à l'insécurité. Il a insisté sur le rôle stabilisateur du Niger au milieu d'une région vulnérable très instable, disant regretter énormément la décision du Mali de demander le départ de la MINUSMA, la mission onusienne. Le chef de la diplomatie européenne a ajouté « On se retire du Mali, on diminue nos activités au Mali et on lance une nouvelle mission de partenariat au Niger ».
Environ 18 millions de doses du premier vaccin contre le paludisme seront livrées à 12 pays africains d'ici 2025. C'est ce qu'ont déclaré mercredi l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin dans un communiqué. Nanik Talani.
Outre les 3 pays tests, le Ghana, le Kenya et le Malawi, qui vont continuer à recevoir des doses, 9 autres pays vont recevoir ces vaccins, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Libéria, le Niger, la Sierra Leone et l'Ouganda. Près de 30 pays africains ont déclaré vouloir recevoir ces doses. Les premiers vaccins devraient arriver fin 2023 et être déployés début 2024. Le paludisme reste l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique, tuant chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de 5 ans, selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS. Le vaccin Mosquirix, mis au point par une société pharmaceutique britannique, a déjà été administré à plus de 1,7 million d'enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi. Il s'est avéré sûr et efficace, entraînant une réduction substantielle des cas graves de paludisme et une diminution du nombre de décès d'enfants, a déclaré M. Tedros. D'après lui, un deuxième vaccin anti-palu, développé par l'Université d'Oxford et produit par un institut indien, est en cours d'examen pour la préqualification par l'OMS. En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde sont survenus en Afrique.
En Afrique du Sud, au moins 16 personnes, dont la plus jeune victime était âgée d'un an, sont mortes dans un bidonville situé près de la ville de Boksburg, à l'est de Johannesburg, en raison d'une fuite de gaz, a annoncé mercredi le premier ministre de la province de Gauteng. 24 victimes avaient été signalées précédemment. Selon les médias sud-africains, la fuite de gaz pourrait être liée à des activités minières illégales.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur l'opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Israël en a annoncé la fin hier. Le bilan, 12 Palestiniens et un soldat israélien tué. Le point avec Mohamedou Humfa.
Nous avons terminé notre opération, la plus importante en Judée-Samarie, non donnée par Israël à la Cisjordanie depuis 20 ans, et la mission a été accomplie, a déclaré hier soir Benjamin Netanyahou. Si Jenin renoue avec le terrorisme, nous reviendrons et cela arrivera plus vite et avec plus de force que ce qu'on imagine, a ajouté le premier ministre israélien. Cette opération lancée lundi a mobilisé des centaines de soldats ainsi que des drones et des bulldozers de l'armée dans la ville de Jenin et le camp de réfugiés adjacent. Ce camp porte encore les stigmates du passage de Tchahal avec des trous béants dans les maisons, des voitures écrasées, le sol recouvert de douille. Nos soldats sont intervenus dans des dizaines de sites où des terroristes fabriquaient des munitions, des explosifs et différentes sortes d'armes, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Près de 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967. Près de 490 000 colons juifs y habitent aussi, dans des colonies que l'ONU juge illégales.
Des avions de chasse russes ont harcelé des drones américains qui effectuaient dans l'espace aérien de Syrie une mission contre des djihadistes, a indiqué mercredi le lieutenant général de l'US Air Force, Alexis Ventchowicz. Selon lui, ces événements constituent un nouvel exemple d'action non professionnelle et dangereuse des forces aériennes russes opérant en Syrie, ce qui menace la sécurité à la fois des forces américaines et russes. Il a appelé Moscou à mettre fin à ce comportement irresponsable. Le président américain Joe Biden a renouvelé mercredi son plaidoyer en faveur d'une adhésion à l'OTAN de la Suède en accueillant son premier ministre Ulf Kristersson à la Maison-Blanche à une semaine d'un sommet de l'Alliance Atlantique, précision de John Linden.
Les deux dirigeants ont notamment évoqué leur soutien commun à l'Ukraine contre l'invasion russe, leurs efforts coordonnés pour rivaliser avec la Chine et le renforcement de leur partenariat bilatéral de défense, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Joe Biden a ainsi souligné son engagement à accueillir la Suède dans l'OTAN dès que possible, d'après l'exécutif américain. Lors d'un échange dans le bureau ovale, le dirigeant démocrate avait déjà déclaré attendre avec impatience l'adhésion de Stockholm. Le premier ministre suédois a de son côté remercié Joe Biden pour son fort soutien. La Suède a des choses à apporter à l'OTAN, a-t-il assuré. Comme nombre de leurs alliés, les États-Unis veulent que la Suède entre dans l'alliance d'ici le prochain sommet de l'organisation prévu à Vilnius les 11 et 12 juillet, peu après l'adhésion de la Finlande voisine, effective depuis le 4 avril. Mais la Turquie, qui a donné son feu vert à l'entrée d'Helsinki dans l'OTAN, bloque celle de la Suède.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a réclamé hier d'avoir accès à l'ensemble de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, alors que Kiev accuse Moscou de préparer une provocation sur le site, alors que la Russie assure que l'Ukraine projette une attaque de l'installation. L'agence estime qu'il est crucial pour ses observateurs d'avoir accès à l'ensemble des bâtiments de la centrale afin de confirmer l'absence de mines ou d'explosifs sur le site. La marine américaine s'est opposée mercredi dans les eaux internationales au large d'Oman à la saisie par l'Iran de deux navires pétroliers battant pavillon international, a annoncé dans un communiqué le commandement central des forces navales américaines. Selon lui, les forces iraniennes ont ouvert le feu sur l'un des pétroliers avant de prendre la fuite à l'arrivée d'un navire de la US Navy. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
La RDC, l'Angola et la Zambie ont signé mardi dans la ville angolaise de Lobito un accord visant à faciliter le transport de leurs minerais vers des marchés extérieurs selon un communiqué publié par la présidence congolaise. La pleine opérationnalisation du corridor de Lobito permettra le désenclavement des mines de la Zambie et de la RDC et la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole, a relevé le président Félix Tshisekedi. La Guinée vient de passer du statut de pays à revenu national faible à celui de pays à revenu national intermédiaire, selon le nouveau classement de la Banque mondiale révélé lundi par le ministère de l'Économie et des Finances. L'évaluation s'est basée sur le revenu national brut qui est passé de 1 010 $ par tête d'habitant en 2012 à 1 185 $ en 2022. Le président mozambicain Filipe Nyusi a déclaré mardi que les objectifs de réduction des émissions de gaz polluants pourrait ne pas être atteint en raison de la réticence de certains pays à mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Certains pays industrialisés continuent de ne pas respecter l'accord de Paris sur le climat, a-t-il dit, observant que les pays de la communauté lusophone comptent parmi les plus affectés par les changements climatiques.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Luis Enrique, nommé entraîneur du PSG.
Oui, le Paris Saint-Germain a annoncé la nomination jusqu'en 2025 de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, en remplacement de Christophe Galtier pour le président Nasser El-Khelaifi du PSG. C'est une nouvelle ère qui commence avec le technicien espagnol.
C'est une nouvelle impression de la façon de jouer, le style du jeu. On a un coach, un des meilleurs coachs au monde. Pas parce que qu'est-ce qu'il a gagné, mais comment il joue le foot.
Nasser El-Khelaifi, président du PSG. Luis Enrique devient le 8e entraîneur de cette formation française depuis l'arrivée du fonds qatarien à la tête du club en 2011. La gestion du cas Kylian Mbappé constituera son premier gros chantier alors que l'avenir flou de la star parisienne risque d'être le feuilleton de l'été. Nasser El-Khelaifi, président du PSG.
La position est très claire. Je ne veux pas chaque fois répéter. C'est très clair. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin, c'est un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuit. C'est impossible. C'est un club français. C'est sans payer. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je veux partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un a changé sa vie, c'est pas ma faute. On ne peut pas laisser un des meilleurs joueurs au monde partir gratuit. C'est très clair.
Nasser El-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain.
Transfert toujours, Carlo Ancelotti, annoncé comme sélectionneur du Brésil.
L'entraîneur italien sera le sélectionneur du Brésil dans un an, une fois son contrat avec le Real Madrid arrivé à terme. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source de haut niveau de la Confédération brésilienne de football. La venue prochaine de Carlo Ancelotti au pays de Pelé met fin à des mois de négociations entre l'entraîneur italien et le patron de la Fédération brésilienne, Enaldo Rodriguez. Ce dernier a toujours considéré l'italien comme son option privilégiée pour relancer une Seleção en quête d'un second souffle après avoir accumulé les revers. Ancelotti est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'à juin 2024 et il a dit publiquement qu'il souhaite continuer jusque-là. Il prendra les rênes de la CELESAO à partir de la Copa América 2024, organisée l'an prochain aux États-Unis du 20 juin au 14 juillet.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des leaders de l'opposition demandent un dialogue pour résoudre ce qu'ils appellent les préalables aux élections acceptées par toutes les parties. Ils ont pour ce faire remis un mémorandum au président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qu'ils ont rencontré la semaine dernière. Eddy Issango a joint à Kindu, dans le Maniema, l'un des leaders de l'opposition, l'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Ponyo.
Nous voulons bien ces dialogues, mais c'était à l'invitation et à l'initiative du président de la CENI, Denis Kadima, qui nous avait invité les quatre grands partis de l'opposition, ainsi que leurs leaders et candidats à tous présidents à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et à l'issue de cette rencontre, nous lui avons remis un mémorandum par les trois grands candidats et il y a évidemment Martin Fayoulou qui avait aussi remis un document. Donc nous quatre, nous avons remis deux documents et qui établissent en fait les grandes préoccupations de l'opposition qui concernent le problème du processus électoral.
En gros, qu'est-ce que vous réclamez exactement?
La loi électorale, comme vous le savez, c'est une loi électorale qui n'est pas inclusive parce qu'elle est casquée à l'image du pouvoir et donc du candidat au pouvoir, qui est candidat aussi à sa propre réélection. Nous avons dénoncé la composition qui n'a pas respecté les règles établies pour sa composition. Nous avons aussi dénoncé la composition de la Cour constitutionnelle qui ne remplit pas les conditions géopolitiques d'unité et d'inclusivité. Nous avons dénoncé les caractères non transparents du fichier électoral et son audit non professionnel et avons recommandé que l'audit par un cabinet international soit réalisé. Par ailleurs, nous avons dénoncé l'instrumentalisation non seulement de la justice, mais d'autres institutions comme le Parlement, comme le gouvernement, comme les services publics, dans le but d'éliminer certains candidats à président. Vous le savez, moi-même, M. Matata, ça fait 2 ans et 2 mois que je suis poursuivi par multiples dossiers inventés de toutes pièces, malheureusement par le pouvoir, à travers la justice, pour tenter de me disqualifier au processus électoral. Monsieur Moïse Katumbi, vous le savez aussi, toute une loi a été inventée contre lui pour pouvoir aussi l'exclure du processus électoral présidentiel.
Vous posez donc des conditions. Comment comprendre cela? Est-ce que vous ne participerez aux élections que si ces conditions sont réalisées, vous allez boycotter?
Non, les trois partis sont d'avis qu'il faut rester dans le processus électoral et qu'il faut, dans l'entretemps, exercer une forte pression sur la CENI pour qu'elle puisse trouver des solutions aux différentes revendications que nous avons soulevées.
C'était le sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre et candidat déclaré à la prochaine présidentielle de la République démocratique du Congo.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Tchad, la ville de Mao, chef-lieu de la province du Kanem, dans le nord-ouest, est menacée par un phénomène naturel. Le ruissellement des eaux de pluie ces 2 dernières années a créé des ravins et fait des sans-abri. Plusieurs habitations de fortune se sont écroulées, faisant des dégâts humains et matériels. Notre correspondant sur place, André Kotmadjingar, fait le point.
Quatre ravins de 5 à 10 mètres de large traversent plusieurs quartiers de la ville. Pendant la saison sèche, ces ravins deviennent de deux potoirs et pendant la saison pluvieuse, les eaux créent de fortes dépressions d'une profondeur de 10 à 15 mètres rendant difficile la circulation. Pour les autorités communales, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui.
C'est un ravin qui a commencé depuis 1980. Les années antérieures, il n'y a pas eu beaucoup de pluie comme les deux dernières années. Puis, on n'a pas de canalisation parce que Mao même est situé sur une dune d'où elle est entourée de quatre wadis. Chaque wadi fait une pente. Donc quand il y a ruissellement, certainement, il y aura des ravins.
Moussa Maïna, maire de la ville de Mao, un phénomène naturel qui est devenu un cauchemar pour la population.
L'année passée, là, il y a beaucoup de maisons sont cassées. Si la pluie arrive, là, ils ont là, sous l'hangar seulement, ils ne peuvent pas rester dans la maison parce que la maison, là, c'est pas garanti. Donc, ils brillent.
Il n'y a pas un barrage qui est ici pour caler un peu de l'eau qui coule. On a beaucoup peur parce que notre maison ici, c'est trop risqué. Nous, on a essayé de contribuer pour stopper de l'eau là de l'autre côté. Mais ça nous dépasse.
Le maire de la ville de Mao, Moussa Maïna, explique au micro de VOA Afrique pourquoi les maisons ne résistent pas au passage des eaux des pluies.
Le plus souvent, les maisons sont en terre. Donc, entre-temps, il y a beaucoup plus de calcaire dans les wadis où on fabrique des briques. Ces calcaires, s'il y a des pluies, elles absorbent l'eau. Mais ces dernières années, le calcaire a disparu. Il reste de l'argile qui n'est pas du tout propice à la pluie. Donc, c'est ça ce qui fait que les maisons s'écroulent. L'année dernière, il y a eu 5 morts.
Le ruissellement des eaux des pluies dépose sur son passage les déchets en tout genre sur la piste de l'abattoir de fortune aménagée par les bouchers eux-mêmes, rendant ainsi le coin insalubre, comme en témoigne l'agent vétérinaire Nilsengar Eric.
Le mur n'est pas construit en dur, alors avec des fortes pluies, ça a écroulé tous ces murs. Donc il n'y a pas quelque chose qui va bloquer l'eau. Les maisons qui s'écroulent là-bas, là, ils déposent toutes les saletés là, sur la piste. Et c'est des déchets quelquefois qu'ils déposaient, donc c'est pas hygiénique pour la population.
De par sa situation géographique peu enviable, certains habitants proposent même aux autorités communales la délocalisation de la ville. Proposition rejetée par le maire de la ville, Moussa Maïna.
La mairie, c'est une commune de moyen exercice qui n'a pas beaucoup de moyens. Pour faire déplacer cette ville, je crois qu'au temps du feu maréchal, cette initiative a été faite. Mais c'est très difficile de délocaliser Mao aujourd'hui.
C'est ici à Mao que la première école française a été créée en 1911 avec 11 élèves. Symbole de l'histoire, un monument sur lequel la liste de 11 premiers Tchadiens scolarisés a été dressée à l'entrée de la ville qui aujourd'hui est menacée de disparition. Ancienne capitale de l'Empire du Kanem, la ville de Mao, plus que centenaire, est subdivisée en 34 quartiers avec plus de 18 000 habitants qui sont plus attachés au sultanat qu'à l'administration publique. André Kordoma Madingar, de retour de Mao N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, 300 acteurs locaux et étrangers du secteur agricole prennent part au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Yaoundé, des entreprises spécialisées dans la transformation des produits agricoles, mais aussi des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'agroalimentaire. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Côte à côte, sur le site d'exposition. Deux entreprises lauréates cette année d'un concours sur l'innovation jeune. La première est spécialisée sur la chocolaterie artisanale. Elle a été cofondée par deux jeunes Camerounais. Larissa Simo, responsable commerciale de l'entreprise Noïa Yaoundé.
C'est une entreprise qui assure la production de chocolat. Et Noïa fait dans les chocolats à tartiner. Nous disposons de 8 différentes saveurs et à croquer de plusieurs grammages.
Quant à la deuxième entreprise nominée, elle emploie 8 personnes. Basée à Douala, elle transforme la patate douce. Manuela Konga, agent commercial.
Madina Food, c'est une entreprise qui produit la marque Bobo. C'est une marque camerounaise qui commercialise et produit des madeleines, des cookies et des sablés à la farine de patate douce. Avec les fonds de Pierre Castel, on souhaite augmenter notre capital afin de s'étendre en zone CEMAC.
Le salon sert aussi de vitrine aux jeunes à la recherche des financements. À l'instar des étudiants en fin de formation de l'Institut universitaire de technologie de Ngaoundéré. Thomas Minka, étudiant du dit institut.
Si nous avons un financement extérieur, ce sera une opportunité très rapide pour mettre sur pied une entreprise. Donc, nous sommes venus exposer des produits alimentaires, à l'instar de la bière, des chocolats. Nous avons des fromages, des liqueurs et des rhums.
Les transformateurs des produits dérivés de cacao et café occupent également une bonne place au Salon international de Yaoundé sous l'encadrement du Conseil interprofessionnel café-cacao, CICC. Dorothée Baudol, chargée d'études au CICC.
À travers nos partenaires ou des fois nos propres experts, ils bénéficient de certaines formations sur le packaging, sur le respect des normes internationales, sur la qualité, la sécurité, l'hygiène alimentaire.
Cette année, les exposants peuvent s'imprégner du modèle turc de technique d'irrigation en vue d'améliorer leur production. Bibiane Atama, promotrice du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé.
On travaille depuis 13 ans pour mettre sur une même plateforme tous les acteurs du secteur pour qu'ils puissent échanger entre eux, trouver des solutions pour s'améliorer. Et on amène aussi de la technologie. Il y a les Turcs qui ont apporté l'irrigation à cause des changements climatiques et pour améliorer même la production agricole.
Les exposants ont aussi l'occasion de se former sur de nouvelles technologies en matière de packaging, d'utilisation des engrais et des machines agricoles. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Depuis 2016, le centre du Mali a été marqué par une escalade des violences communément appelées conflits intercommunautaires qui ont profondément affecté le tissu social de la région. Des initiatives pour reconstruire ce tissu et favoriser une cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Dans ce cadre, le centre Nomo de Ségou de l'Union européenne qui a lancé une initiative visant à former une centaine de jeunes issus des régions centrales au métier du textile, Mohamed Danioko.
Au Mali, les autorités ne sont pas les seules à œuvrer pour le retour de la paix. L'Union européenne, à travers le projet Jeunesse et Stabilisation, PROJESS, met en œuvre à Ségou et dans d'autres régions du centre des initiatives pouvant créer des opportunités d'emploi et d'autonomisation des jeunes et lutter contre leur enrôlement par les groupes terroristes. Sa dernière initiative de formation de 120 jeunes des régions de Ségou, San et Mopti dans les métiers du textile entre dans ce cadre.
Le Mali aujourd'hui n'est pas seul dans cette démarche-là. Le Mali, l'Union européenne, par exemple, évolue à côté du Mali depuis fort longtemps pour l'aider à apporter des actions complémentaires pour favoriser, surtout de la paix à travers beaucoup d'actions, de projets, programmes, notamment dont fait partie le programme Jeunesse et Stabilisation.
Créé au début des années 2000, le Centre Ndomo, connu pour son architecture qui rappelle celle soudano-sahélienne et qui s'évertue à vulgariser les traditions, va conduire cette formation de 3 mois en filature, le tissage et la teinture naturelle appelée borolan. Ici, le tissage a une double vocation, matérielle et humaine.
Le triangle, un travail bien fait doit être toujours félicité. La limite, chaque chose a une limite. Le rond, l'espoir d'une famille, un trésor. Vous voyez? Et lever comme ça, ça veut dire la colonne vertébrale de poisson. La composition s'appelle l'union dans la diversité, Balmaya.
Car en réalité, si le projet crée des conditions pour l'autonomisation des jeunes, son souci premier, c'est de contribuer aux côtés des autorités au retour de la paix dans le centre du pays.
Cette formation va sûrement ramener la cohésion au sein des communautés du centre du Mali. Certains viennent de San, d'autres de Benina et de Mopti. On va échanger, apprendre à se connaître et tisser des liens d'amitié.
Pendant ces 3 mois, ils vont communier, ils vont interéchanger pour que au moins la cohésion tant voulue par les autorités puisse se réaliser. Parce qu'au cours de leur formation, ils vont apprendre à se connaître, à se côtoyer et à lever toute suspicion ou comme on le dit d'amalgame, parce qu'on a encore plusieurs détenus aussi qui vont se retrouver.
Résolument, tous les efforts de l'État malien et de ses partenaires sont désormais tournés vers le retour de la paix partout au Mali, et cela passe par la construction de ponts entre les communautés. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia au micro, Lionel Gahima à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Bonne journée à l'écoute de VOA.